Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct. Chacun de nos invités est chez soi et nous-mêmes, nous sommes à la Maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, la hiérarchisation sociale des métiers est-elle aujourd'hui figée en France? Le 13 avril dernier, en plein confinement, le président de la République avançait dans un de ses discours télévisés qu'il faudrait, je cite, se rappeler que notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Il rendait ainsi hommage à celles et ceux qui continuaient alors à travailler pendant la crise, caissières, aides-soignantes, livreurs, éboueurs, hommes et femmes de ménage. À l'appui de sa démonstration d'ailleurs, Emmanuel Macron citait l'article le 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sur l'utilité commune. En faisant cela, il a, selon Romaric Gaudin, qui est un de nos invités, auteur d'un article à ce sujet dans Mediapart, il a ouvert la boîte de Pandore, laquelle celle de la hiérarchie des métiers dans notre société qui invisibilise certaines tâches confiées souvent aux femmes. Est-il possible de valoriser et comment ces métiers de la première et de la seconde ligne? Que serait un salaire décent pour ce type d'emploi? Pourrait-on prendre en compte leur pénibilité? En quoi une telle déclaration présidentielle remet-elle symboliquement en cause l'idée que l'on se fait dans notre société de la valeur du travail? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. D'abord avec Romaric Gaudin, donc de Mediapart. Bonsoir Romaric Gaudin.
Bonsoir.
Avec Bertrand Martineau, vous êtes économiste, spécialiste du chômage et politique sociale et de l'emploi, et vous travaillez à l'Institut Montaigne. Vous êtes également le prix Turgot 2014 pour un livre qui s'intitulait « Chômage, inverser la courbe ». Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous, Sylvie Vachon. Vous êtes secrétaire fédérale de la CGT Commerce et Services et vous êtes salariée d'un hypermarché. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous tous les trois. Je vais commencer avec vous, Romaric Gaudin, parce que votre article dans Mediapart nous a fait phosphorer, nous, toute l'équipe du temps du débat. Cette question ne paraissait pas évidente dans un discours qui avait bien d'autres objets que celui, justement, de cette hiérarchie sociale des métiers. Qu'est-ce qui vous a fait, en tant que spécialiste d'économie à Mediapart, réagir et en faire une analyse très poussée dans votre journal en ligne?
C'est que finalement, on n'avait pas l'habitude de mettre sur le devant de la scène cette question de la hiérarchisation sociale des métiers. On part du principe, en réalité, que le marché du travail fait bien les choses et qu'il y a une sorte de naturalité, voilà, quelque chose de naturel dans le fait qu'un éboueur soit plutôt mal payé ou une caissière ou un manutentionnaire de supermarché et que voilà un conseiller fiscal le soit beaucoup mieux. Et évidemment, avec le confinement, on s'est rendu compte que cette hiérarchisation par le salaire, elle ne reflétait pas ce qu'on pouvait appeler l'utilité, ce que le président de la République a appelé l'utilité commune en référence à la Déclaration des droits de l'homme, parce que effectivement, si ces gens qui effectivement sont très mal récompensés par le système économique actuel s'arrêtaient de travailler, eh bien, on aurait eu énormément de soucis. Et il faut quand même se souvenir que c'est une période qui est quand même assez exceptionnelle, où on s'est retrouvé avec la moitié des salariés en chômage partiel, et malgré tout le monde a plus ou moins, parce qu'il y a eu des exceptions, mais tout le monde a plus ou moins mangé à sa faim et eu accès aux produits et aux services de
et on a vidé nos poubelles tout de même, c'est ce que vous voulez dire aussi.
Exactement.
Oui. Sylvie Vachou, vous êtes donc secrétaire fédérale de la CGT Commerce et Services. Vous avez été surpris quand vous avez entendu, avec d'autres qui travaillent avec vous, cette déclaration du président de la République le 13 avril. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, il y a quelque chose qui change?
Je vais dire oui et non, parce que effectivement, mais il a rappelé Romaric, j'ai lu son article d'ailleurs avec beaucoup d'attention et d'intérêt, hein, effectivement, où on se rejoint tout à fait, mais oui et non, parce que nous-mêmes on s'est posé la question, on le sait que dans la grande distribution, dans 15 jours à peu près, les salariés ont travaillé sans moyens ou sans mesures de protection. Donc beaucoup sont tombés malades, hein. Malheureusement on a eu à déplorer quelques décès parmi ces salariés. Et on s'est posé la question, on se dit qu'est-ce qu'on fait concrètement, parce qu'on ne peut pas laisser exposer contre nos salariés, les salariés au Covid. Et on s'est dit que si on commence à faire ce que les salariés exercent leur droit de retrait, voire appel à la grève, il va y avoir une catastrophe sanitaire, enfin une catastrophe alimentaire dans ce pays de grande ampleur. Donc on a pris nos responsabilités et on a écrit à Madame Pénicaud, on a écrit au niveau de la branche, etc., pour que les employeurs mettent enfin des protections dignes de ce nom.
C'est ce qui s'est fait, mais avec retard. C'est ce qui s'est fait avec retard.
Ils ont mis à peu près deux semaines. Deux semaines où on a commencé à avoir des coups de téléphone de salariés affolés parce que leurs collègues étaient tombés malades. Eux-mêmes avaient été en contact avec ses collègues. Enfin, il y a eu quand même un profond désarroi parmi les salariés, tout en se rendant compte de leur utilité et parce qu'ils sont consciencieux professionnellement. Et ils se sont dit, non, nous, on est obligés de rester quand même à nos postes de travail parce que sans nous, effectivement, le pays va sombrer dans des émeutes de la faim. Hein, il faut se dire les choses comme elles sont. Donc, voilà, on a essayé de prendre toutes nos responsabilités et on a essayé de faire un maximum pour que les salariés puissent enfin bénéficier de mesures de protection dignes de ce nom, avec des masques en quantité suffisante, etc., etc.
Est-ce que les...
Chose qui a été faite, mais avec beaucoup de retard, il faut se le dire, il faut quand même l'avouer... Et pendant ce temps-là, la branche de la grande distribution est restée très silencieuse vis-à-vis au moins des organisations syndicales. Pas que de la nôtre, en disant ça.
Est-ce que les clients des supermarchés, des super-aides, des hypermarchés, etc., qui étaient restés ouverts pendant cette période-là, ont eu une attitude qui était semblable à celle du président de la République, du moins en parole? Est-ce qu'ils ont dit, écoutez, on est content que vous soyez là?
Tout à fait. C'est ce qui nous est remonté dans un premier temps, c'est que les salariés avaient quand même de grands merci de la part de la clientèle en disant heureusement que vous êtes là, heureusement que vous êtes à votre poste, malgré le danger, etc., etc. Ça oui, on l'a eu. Nous, ça fait quand même des années qu'on se bat pour une revalorisation des salaires dans la branche, parce qu'il y a beaucoup de temps partiel, beaucoup de familles monoparentales et beaucoup de femmes. Et je pense que la réflexion... Alors, j'ai lu avec beaucoup d'attention l'article de Mediapart, où lui, il met en opposition capital et travail. Et moi, j'irai beaucoup plus loin. Parce que ce soir, on parle beaucoup de métiers à prédominance féminine. On parle des aides-soignantes, des infirmières, des caissières.
On parle aussi des éboueurs qui sont plutôt masculins, et on parle aussi des chauffeurs routiers, etc., etc., qui sont aussi ceux qui ont permis...
Il y a quand même Il y a des femmes parmi les chauffeurs routiers.
Bien sûr.
Ces métiers dits à prédominance féminine, pendant très longtemps, ils ont été déqualifiés, sous-estimés, invisibilisés. C'était un maillon de la chaîne, c'était un maillon sociétal qui n'avait pas de reconnaissance en tant que tel. On disait oui, elles sont là parce qu'elles n'ont pas pu faire autre chose et parce que ça les arrange, une coupe en partielle, conciliation vie familiale et professionnelles, alors que quand on gratte, on s'aperçoit que les temps partiels, parfois, elles sont 5 jours sur 7 au travail. Je pense que la réflexion doit se porter beaucoup plus largement autour de ces métiers à prédominance féminine. Effectivement, les revaloriser à leur juste valeur.
On va y venir avec vous.
Ça demande des compétences.
On va y venir avec vous, Sylvie Vachoux. Je voulais donner la parole à notre troisième invité, Bernard Martineau. Vous qui êtes économiste, qui êtes plutôt libéral, puisque vous travaillez aussi à l'Institut Montaigne. Vous avez d'ailleurs publié une note pendant le confinement qui s'appelait « Rebondir face au Covid-19, l'enjeu du temps de travail », où vous invitez justement à réfléchir à une réduction, à la suppression de certains jours fériés, etc., etc., qui a fait beaucoup parler d'elle, cette note, Bernard Martineau. Est-ce que vous pensez que le marché n'est pas le mieux à même pour réguler justement cette question de la hiérarchie sociale des métiers et que peut-être certains de ces métiers devraient être revalorisés, ou est-ce que vous pensez que le boulot est bien fait par le marché tel qu'il est ?
Alors, je ne dis pas que le boulot est bien fait par le marché est très imparfait, mais cette opposition entre les premiers de corvée, c'est ça, et les autres, toute cette tentative d'un peu opposer finalement les populations et les catégories entre elles me laisse quand même un petit peu mal à l'aise. Les employés ou les ouvriers industriels, ce sont pas des gens dont on a besoin, les artisans, les militaires, les enseignants, les avocats, les juges, les notaires, est-ce qu'on n'a pas besoin d'ingénieurs? Est-ce que c'est pas absolument fondamental? Est-ce qu'on n'a pas besoin de gens qui font du commerce pour essayer de décrocher des contrats?
Bien sûr, mais tous n'étaient pas sur le pont à ce moment-là, pendant le...
Ce sont des gens qui sont absolument essentiels à la vie de la nation
Bien sûr. Tous les métiers
donc peut-être pas tous, mais en tout cas, il y en a énormément qui sont essentiels. Donc, on ne peut pas tirer de cette pandémie, qu'on espère pas durable quand même, une redéfinition et d'ailleurs on se demande bien qui déciderait, une redéfinition de la cartographie des métiers selon utile, pas utile. Je rappelle qu'il y a des vieilles théories qui datent du XVIIIe siècle, qui disaient en gros que comme toute la richesse provient de la terre, il n'y a que les paysans qui produisent de la richesse, ce qui fait que le développement industriel en fait n'était pas du vrai développement économique.
Les physiocrates en particulier.
C'était les physiocrates en particulier, mais il y a toute une tradition jusqu'au début du 19e siècle où on parle finalement de ceux qui sont utiles et de ceux qui sont pas utiles. Par exemple, Adam Smith disait par exemple que les fonctionnaires n'étaient pas utiles, et puis en particulier également les personnels domestiques n'étaient pas utiles. Bon, et lui-même d'ailleurs comme professeur d'université était peut-être inutile aussi, vous voyez. Donc c'est une réflexion qui vient de loin.
Emmanuel Macron s'est trompé par exemple quand il dit le 13 avril il faut imaginer qu'il soit mieux rémunéré, qu'il soit plus reconnu et mieux rémunéré. Vous pensez, Bernard Martineau, que c'est une erreur?
Bertrand Martineau, pardon, excusez-moi. Mais c'est une erreur. Non, je pense que bon, d'abord il y a la dimension un peu émotionnelle de tout ça. Les questions d'inégalité qui sont derrière sont très importantes. Le marché ne les résout pas sans doute correctement. La question qu'a posée Madame, qui est à mon avis plus importante que d'hiérarchiser les métiers, c'est la question de la rémunération et des perspectives de carrière des femmes. Mm-hmm. Donc ça, ce sont des vrais sujets qui ne sont pas apparus d'ailleurs au moment de la pandémie.
Bien sûr.
Je pense que les questions d'inégalité, d'accès à la connaissance, d'éducation, des inégalités de patrimoine, de revenus, tout ça, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec la pandémie. Donc il faut essayer de faire la part de un peu ce qui est de l'émotionnel et puis de ce qui est une hiérarchie à repenser des métiers avec un marché qui fait pas forcément bien le travail, mais qui, je ne vois pas qui serait autorisé. C'est pas un chef de bureau d'un ministère qui va décider que une caissière de supermarché c'est un métier essentiel, un ouvrier de l'industrie ce n'est pas un métier essentiel, un avocat on n'en a pas besoin, un ingénieur on n'en a pas besoin. Vous voyez, on peut pas rentrer dans ce débat là. En tout cas, on peut entrer dans tous les débats qu'on veut, mais je ne suis pas sûr que ce soit très très productif.
Alors justement, dans votre article pour Mediapart, Marie Godin, vous faites plusieurs propositions, vous imaginez plusieurs scénarios possibles, vous allez jusqu'à imaginer Trotsky en 1920, vous faites appel à Marx sur la valeur du travail, vous sortez Paul Matic sur la sortir de la loi de la valeur, vous allez aussi vers des penseurs ou des penseuses plus contemporains ou contemporaines comme Dominique Méda, qui évoque elle aussi la question de l'utilité sociale des métiers. Alors la question que pose Bertrand Martineau est judicieuse. Qui décide dans ces cas-là du changement de la hiérarchie sociale des métiers dans nos sociétés?
Alors d'abord, pour réagir un petit peu, je pense que définir une utilité commune ou sociale comme on voudra, ça ne veut pas dire que en creux tout le reste est inutile. Ça veut dire évidemment réfléchir à des métiers qui sont aujourd'hui dévalorisés, sous-valorisés, où on ne reconnaît pas les compétences, on l'a dit, et c'est un élément important. Lorsque Monsieur Martineau dit il faut avoir accès à la connaissance pour monter dans la hiérarchie, etc., il part du principe que en fait, quand on est éboueur, on n'a aucune connaissance et aucun savoir-faire. Or c'est faux. Et en fait, ces métiers ont un savoir-faire, ont une connaissance, et avec la pandémie, on s'est quand même rendu compte que cette connaissance, ce savoir-faire, cette abnégation dans certains cas, avait une valeur, et que cette valeur, effectivement, elle n'était pas prise en compte par le système économique actuel. Alors comment faire ? Ben, je vous répondrai assez simplement. Qui décide aujourd'hui que les 1000 plus riches Français captent 2,3% de la masse salariale totale ? Qui le décide? Bon, voilà. Donc à partir du moment où on est capable de décider des employés à des fonctions financières ou administratives ou de direction peuvent capter 2,3% de la masse salariale française, on doit pouvoir être capable à un moment de déterminer une façon de revaloriser tout un tas de métiers, tout un tas de travailleurs qui aujourd'hui sont mal reconnus, mal récompensés, mal rémunérés. Mmh. Et je pense que à ce moment-là, on doit pouvoir à un moment réfléchir ensemble, de façon démocratique, à savoir si effectivement il ne faut pas modifier cette hiérarchie des métiers.
Alors ça passe par quoi ? Ça passe par des lois, par des négociations de branches,
Il peut y avoir effectivement des négociations de branche, mais des négociations de branche, qui ne soient pas faites comme elles sont faites aujourd'hui, c'est-à-dire et particulièrement aujourd'hui avec le couteau sous la gorge des licenciements. Hein, et effectivement, dans ce cas-là, et avec effectivement toutes les réformes de libéralisation du marché du travail qu'on a vues, qui en fait mettent les travailleurs en position de faiblesse. Et à ce moment-là, la négociation, en fait, elle n'existe pas. C'est une négociation fictive. Donc effectivement, ça peut être, si on rééquilibre les choses, ça peut être un choix. L'autre choix, ça peut être effectivement d'instaurer des salaires minimums, ça peut être de réfléchir à des salaires minimums par branche importants. Voilà, on peut réfléchir à tout un tas de solutions. On a aujourd'hui des moyens, en tout cas, d'évaluer des métiers qui répondent à des besoins essentiels, et c'est pas dévalorisant pour les autres. Moi, en tant que journaliste, à la limite, je suis prêt à reconnaître que mon métier est pas aussi essentiel que celui d'un éboueur, et je me sens pas dévalorisé pour autant. Ça n'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Et par ailleurs, juste un dernier mot, ça veut pas dire non plus qu'on doit égaliser l'intégralité des salaires et des rémunérations, et qu'il faut être dans une sorte d'égalitarisme absolu. C'est pas non plus cette question-là, et vous avez cité tout à l'heure les gens que j'ai cités, même Marx ne défend pas cette idée d'égalitarisme absolu. Donc,
Bertrand Martineau, qu'est-ce que vous répondez à Romaric Gaudin et sur la possibilité ou non justement de faire évoluer ces métiers dits essentiels ou qui l'ont été présentés comme tels pendant la crise de la Covid en France?
Oui, alors encore une fois, je ne sais pas ce que c'est un métier essentiel. Hein. Oui, prenons un conflit armé, bah, je vais vous dire, les héros absolus, ce seront les militaires, et on se rendra compte que les militaires sont peut-être pas assez payés, vous voyez. Et alors qu'aujourd'hui, on ne parle pas des militaires, parce que heureusement, nous sommes en paix. Mais pour répondre, donc je ne sais pas répondre à cette question, mais puisqu'il y a des leviers qui ont été évoqués par Marie Gaudin, alors effectivement, parlons-en. Alors parmi les métiers qui sont cités comme étant indispensables donc pendant la crise du Covid, bon, il y a beaucoup de métiers qui sont des agents publics, de la fonction publique. Donc là, c'est très simple. Qui décide? Ce sont les pouvoirs publics qui décident des salaires.
Voilà. Pour les auxiliaires de vie dans les EHPAD, c'est pas vraiment les pouvoirs publics qui décident, en l'occurrence.
Non, tout à fait. Non, mais indirectement, parce que pour celles qui sont dans le secteur public, parce qu'elles sont fixées par les tarifs de l'APA notamment, et donc ce sont en fait des tarifications publiques qui très largement déterminent en fait les niveaux de rémunération. Et puis les niveaux de rémunération.
Donc vous voulez dire que l'État fait pas son boulot et ne
Ah, je dis pas qu'il fait pas son boulot. Je veux dire, on peut aussi parler des enseignants. Je pense que même si pendant le Covid, les enseignants n'ont peut-être pas été les métiers les plus essentiels, on peut en débattre. Ça reste un métier très essentiel. Oui. Enfin, quand on fait la liste des métiers essentiels, on se rend compte que c'est quand même, on parle de 90% des gens, j'ai l'impression. Mais bon, donc prenons les enseignants. Les enseignants sont sans doute pas assez payés en France, de même que les aides-soignants, les infirmiers, les médecins hospitaliers de manière générale aussi par rapport à d'autres pays. Et donc, ils sont très largement, en grande partie, ce sont des décisions des pouvoirs publics. Donc, la question revient à une question de finances publiques, c'est-à-dire peut-on augmenter très sensiblement le budget des hôpitaux, par exemple, pour payer davantage les personnels hospitaliers.
Mais on peut aussi augmenter le SMIC, par exemple, ce que beaucoup refusent.
Alors, autre sujet dans le secteur privé. Donc, dans le secteur public, c'est un sujet de finances publiques, c'est un sujet de choix politique. Effectivement. Donc, on peut très bien décider d'augmenter les dépenses publiques pour davantage augmenter donc les personnels, par exemple les personnels hospitaliers. Il faut juste trouver la ressource. Alors, on peut augmenter les impôts, ça tombe bien, on n'a pas beaucoup d'impôts en France. Donc, on peut augmenter les impôts. On peut peut-être aussi faire des choix, c'est-à-dire augmenter certaines dépenses et en baisser d'autres. Par exemple, on pourrait imaginer de faire des efforts sur les personnels des EHPAD ou des hôpitaux en augmentant l'âge de départ à la retraite, qui est le plus faible de tous les pays de l'OCDE. Et là, il y aurait un vrai choix politique qui est on travaille plus longtemps, mais le supplément de ressources dégagé, on le met, par exemple, pour le financement de la dépendance. Ce serait peut-être un beau sujet de société. Bon, et économique également. Bon, voilà. Donc, alors maintenant, dans le secteur privé, effectivement, si vous augmentez les salaires, la question est de savoir qui va payer. Donc il y a deux possibilités. Soit ça passe dans les prix, bon, donc il faut que les consommateurs soient prêts à payer davantage leurs produits, par exemple leurs produits de base. Or, on a un petit problème de pouvoir d'achat dans le pays. Et ensuite, deuxième possibilité, diminuer les marges des entreprises, hein, diminuer l'excédent d'exploitation des entreprises. Et là, écoutez, c'est un sujet qui peut se discuter. C'est la question du partage de la valeur ajoutée. Effectivement, ça se débat. Alors, on peut apporter des éléments factuels qui sont que la France a un partage de la valeur ajoutée qui est à peu près le même que dans les autres pays, qui n'a pas diminué en défaveur des salariés ces 20 dernières années, contrairement à beaucoup de pays. Mais c'est un sujet qui se débat. Et les négociateurs de branches ou les négociateurs des entreprises, au niveau des branches ou des entreprises, les négociateurs syndicaux, essayent, et c'est leur métier, essayent d'avoir le plus possible d'augmentation de salaire avec des patrons en face qui expliquent qu'ils ont des problèmes de marge, ce qui est parfois vrai, parfois ça se discute évidemment. Voilà. Mais c'est pas simple. Enfin, il suffit pas de décréter comme ça qu'on augmente les salaires.
On le sait bien. Donc, en tout cas, on continue à discuter avec vous, donc Bertrand Martineau, avec Romaric Godin et avec Sylvie Vachoux, après avoir écouté un extrait de la chanson Working Class Hero de John Lennon.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be.
Vous écoutez Le Temps du Débat avec Romaric Godin, Bertrand Martineau et Sylvie Vachoux, et nous parlons de la hiérarchie sociale des métiers en France pour savoir si elle est encore figée ou si elle pourrait bouger à l'issue de cette crise du coronavirus. Nous avons écouté Working Class Hero de John Lennon. Sylvie Vachoux, en tant que secrétaire fédérale de la CGT Commerce et Services et salariée vous-même d'un hypermarché, vous avez eu des promesses pendant la période du confinement. On vous a dit on va vous augmenter, on va vous donner des primes plutôt, des primes qui tardent à venir, qui même ne viendront pas telles qu'elles étaient espérées et peut-être même énoncées pendant la période du confinement, Sylvie Vachoux.
Oui, vous parlez des fameuses primes de 1000 euros qui, pour finir, va concerner malheureusement très peu de monde. Parce que, alors ça c'est quand même l'ironie, c'est que quand même les salariés qui ont été atteints du Covid vont être exclus de cette fameuse prime, alors qu'on sait qu'en plein confinement, et pour nous être enseignés à chaque fois, les salariés allaient au travail, rentraient chez eux et respectaient bien les consignes de confinement. Donc ils n'ont pu l'attraper qu'au travail, voire dans les transports en commun. Mais en aucun cas parce qu'ils allaient faire la fête en sortant le soir. Ça c'est une chose, hein. Et je parle d'ironie, mais c'est du sarcasme. Enfin, je trouve même pas les mots tellement c'est odieux. Voilà le terme. Hein. Sur les réseaux sociaux a circulé ce fameux salarié de Monoprix qui était 3 semaines en réanimation et qui est sur son lit d'hôpital et qui apprend que malheureusement il n'aura pas la prime. Donc les salariés, si nous ont remonté dans cette période, c'est ok, on a une prime, mais bon, c'est pas ce qu'il nous faut. Nous, on a besoin vraiment d'un salaire digne pour vivre décemment. Et nous, ça fait des années, effectivement, qu'on se bat pour une revalorisation des salaires dans cette branche. Parce que là, on parle d'un SMIC pour un temps plein. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de temps partiel. Et les temps partiels se déplacent. Elles ont risqué quand même leur vie et celle de leurs proches pour 700 voire 800 euros net par mois.
Ouais.
Enfin, c'est d'une...
Et les primes en question dont vous parlez, elles seront versées pour certaines si on a fait plus de 30 heures, si on a fait plus de 26 heures.
Oui, en plus, si on a fait... alors les congés, ils nous ont imposé les congés parce qu'effectivement, jusqu'à fin mai, ils ont refusé tout report de congé. Donc, les gens qui étaient en congé, qui ont été obligés de prendre leur congé, ils sont exclus. Les temps partiels, ça sera au prorata temporis. Il y a eu des étudiants qui, comme les universités étaient fermées, on leur a fait des avenants pour qu'ils travaillent un peu plus d'heures, mais ceux-là, qui n'excèdent pas un certain nombre d'heures, seront quand même exclus. Je veux dire, on parle de toute une population de salariés qui se sont quand même déplacés tous les jours, qui se sont exposés pleinement au Covid, hein, et qui vont, ne seront pas plus ni reconnus ni récompensés pour autant.
Et quant aux clients, j'imagine qu'ils ont changé leur attitude très positive qu'ils pouvaient avoir pendant le confinement et que peut-être aujourd'hui, ils regardent à nouveau ces métiers avec une hiérarchie sociale descendante, avec beaucoup de, disons, de morgue vis-à-vis des caissières ou des personnes qui travaillent dans les super ou les hypermarchés.
Je ne saurais pas répondre à cette question. Je pense qu'il y a l'effet 2 mois de confinement, ça pesait lourdement quand même chez les salariés, y compris chez les citoyens de ce pays, où le seul moment de sortie qu'ils avaient, c'était aller effectivement faire leurs courses dans les magasins. Donc je sais que beaucoup de caissières et de caissiers nous ont dit qu'ils étaient obligés de faire entre guillemets la police parce que les clients ne respectaient pas forcément les distanciations sociales, parce qu'ils ne comprenaient pas à des moments donnés qu'il y avait des ruptures de stock dans les rayons, qu'ils ne comprenaient pas qu'on les filtre à l'entrée, enfin, qu'on ne comprenait pas pour certains magasins où ils ont rendu le port du masque obligatoire. Effectivement, donc la seule personne qu'ils ont en face d'eux à ce moment-là, malheureusement, c'est la caissière.
Bien sûr.
Donc, il en sort d'une situation, d'un contexte assez particulier. Alors, c'est vrai qu'on a eu des remontées d'incivilité, mais pour 90 personnes sympathiques dans la journée, on va retenir malheureusement les
bien
deux
sûr.
Qui vont être un petit peu... Par contre, les revalorisations salariales, ça s'est remonté très très fort de la part des salariés.
Et donc, vous avez des salariés en colère, c'est ce que vous voulez dire, des salariés
Voilà, hein, on l'a vu, il y a quand même des mouvements là qui commencent à s'amorcer, hein, au Champ, il y a eu Carrefour, il y a quelques mouvements où les salariés commencent à... Il y a Aldi dernièrement, hein, ils ont fait 3-4 jours de grève, où les salariés aujourd'hui disent la prime, en fin de compte, on nous a... C'était la carotte, quoi, en gros, hein, on s'aperçoit que très peu de monde va la toucher, y compris tous les sièges sociaux, tous ceux qui étaient non exposés. Il faut savoir que les salariés, certains salariés, ceux qui se mettent en rayon particulier, ont travaillé la nuit, alors soit à leur demande, soit à la demande à la direction, donc ils étaient forcément moins exposés. Ceux-là seront exclus quand même de la fameuse prime, sous prétexte qu'ils n'étaient plus exposés. Enfin bon, du coup, ça a plus créé de tensions, de mécontentement au sein même de ce salariat qui, du jour au lendemain, effectivement, s'est retrouvé en deuxième ligne, alors que jusqu'à présent, ils étaient plus ou moins invisibilisés. En fait, voilà, on va rentrer dans un magasin, c'est logique qu'on trouve une caissière ou un caissier. Il faut savoir qu'avant la pandémie, Casino avait entamé des négociations sur sa transformation du métier de caissière parce qu'il voulait remplacer quand même le métier de caisse par de l'automatisation des caisses. Aujourd'hui, le projet, il est un petit peu en stand-by. On ne sait pas trop ce que ça va donner, où ils sont aperçus qu'en fin de compte, heureusement qu'il y avait des caissières et non pas des caisses automatiques pendant la période. Derrière, certaines enseignes ont fait le choix de fermer carrément les caisses automatiques parce qu'on sait que c'est vecteur de virus. Donc voilà.
On y reviendra.
Les salariés disent tout compte fait, on a été mis. On a pris conscience de l'utilité de notre présence, de notre métier. Mais derrière, il faut aussi qu'il y ait une reconnaissance.
Bien sûr.
C'est une bataille qu'on mène depuis des années.
Oui.
C'est-à-dire qu'on sait que les grilles au niveau de la branche, je parle de la grande distrib, hein, qui démarre 1 centime au-dessus du SMIC.
On va y revenir avec vous. Je voulais donner la parole à Romaric Godin et à Bertrand Martineau. Romaric Godin, c'est un peu la même chose pour les femmes de ménage. On a vécu la semaine dernière la question de la proposition de loi de François Ruffin sur les femmes de ménage qui n'a pas été votée par François Ruffin soi-même, disant qu'elle était vidée de son sens devant la commission des lois qui devrait revenir le 4 juin prochain. Est-ce que, au bout du compte, ce discours du président de la République du 13 avril à partir duquel vous avez fondé votre réflexion pour un article de Mediapart sur la hiérarchie sociale des métiers, reprenant les travaux de sociologues comme Dominique Méda sur ces questions-là, eh bien, est-ce que ce moment est une sorte de parenthèse qui s'est déjà refermée ?
Écoutez, je pense que ça paraît aujourd'hui totalement, totalement évident, parce que, effectivement, pour reprendre la présentation de M. Martineau tout à l'heure, qui est très juste, ça demande une modification assez profonde aujourd'hui de la façon dont l'économie fonctionne. Et notamment, ça demanderait effectivement une réflexion sur, est-ce que vous êtes prêt à payer un peu plus pour avoir, pour revaloriser, sachant que on est quand même dans une, ça fait 15 ans qu'on essaye de faire repartir l'inflation. Est-ce que effectivement, ce système qui a été mis en place il y a depuis 20-30 ans, qui consiste à sous-traiter notamment toutes ces tâches de nettoyage à des entreprises qui ont des marges extrêmement faibles et qui donc pressurent les salaires en réalité pour pouvoir gagner de l'argent, ce qui fait que en réalité
et puis interrompent les journées de travail en faisant travailler
bien sûr dans des conditions de travail qui sont parce qu'on parle des salaires, mais en réalité il faudrait aussi parler des conditions de travail. Et tout ça quand même, moi je veux bien que en fait ce soit qu'anecdotique et que tout ça est déjà fini parce que le Covid ce serait déjà fini. Mais enfin, moi, je suis quand même assez surpris. Un avocat, ça n'a pas été en contact direct avec la maladie comme l'a été un éboueur, une femme de ménage ou une caissière, ou évidemment les personnels soignants. Un conseiller fiscal, ça n'a pas eu la même fonction. Le conseiller fiscal a arrêté de travailler pendant 2 mois, et excusez-moi, mais c'est pas grave. Alors je veux bien que ça n'ait pas de sens parce que c'était juste le Covid et que le Covid est terminé, mais il y a un moment où et encore une fois, il ne s'agit pas de tout égaliser, mais il y a un moment où on peut se dire, est-ce que on peut simplement réfléchir sur le travail concret, la vie de ces gens qui sont soumis, qui travaillent effectivement très tôt le matin, très tard le soir, dans la nuit, et qui sont soumis à des conditions de travail.
C'est reposer la question de la pénibilité qui avait été écartée dans les négociations de l'année dernière, par exemple.
Oui, c'est la reposer de façon, c'est la reposer de façon très concrète et réelle, c'est-à-dire à un moment de dire, l'entreprise de nettoyage a une marge très faible. Mais enfin, ce sont des métiers qui doivent être mieux rémunérés. Donc, comment on fait ? Est-ce que ces systèmes de sous-traitance sont toujours justifiés ? Est-ce que c'est pas à un moment un service commun, un service social, une utilité sociale ? Et à ce moment-là, est-ce que c'est pas effectivement quelque chose qui doit être pris en compte par la communauté ? Voilà.
Bertrand Martineau, en tant qu'économiste, il y a un ministre qui a fait des propositions il y a une dizaine de jours. Il s'appelle Gérard Darmanin. Il a dit, on ne peut pas vraiment grever les bénéfices des entreprises en difficulté. On ne peut pas non plus ne pas tenir compte de ces efforts qui ont été faits pendant la crise de la Covid par les salariés en particulier. Augmentons la participation comme le faisait ou avait voulu le faire le président de la République de l'époque qui s'appelait Charles de Gaulle, et ça n'avait pas tout à fait réussi puisque ça avait été une des causes de son départ. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être une solution justement pour certains types de métiers, dire vous participez aux bénéfices et aux résultats de l'entreprise.
Oui, alors tout à fait. Mais alors, je pense quand même que il faut sortir quand même de ce débat ceux qui ont été exposés au Covid, les autres. Je suis désolé, un avocat dont parle Romaric Gaudin ou un enseignant qui a pris la ligne 13 du métro parisien pendant les 15 premiers jours de mars a sans doute été plus facilement en contact du Covid que la caissière de supermarché de Mont-de-Marsan où il n'y a sans doute pas eu de Covid. Vous voyez, enfin, on ne peut pas non plus pousser... je pense qu'il faut que le débat soit élevé à son juste niveau. Effectivement, comme dit Romaric Gaudin, ce n'est certainement pas un modèle économique inchangé qu'on peut résoudre ces difficultés sociales et toutes ces difficultés. Mais laissons pour l'instant le Covid un peu de côté. Je ne pense pas qu'il ait grand-chose à voir là-dedans.
C'est pourtant cette crise-là qui a... Mais parce de réfléchir à cette question-là.
Le Covid fait ressortir des débats qui existaient déjà. Il les fait ressortir sous de nouvelles formes. Le débat fondamental, ce sont les inégalités dans ce pays qui doit nous interpeller. Et le Covid fait ressortir un certain nombre de choses qui existaient avant. C'est pas le Covid qui a créé les inégalités. Voilà. Il y a aussi des inégalités entre territoires dont il faudrait parler. Encore une fois.
Et puis, vrai que ça fait ressortir ce que l'anthropologue David Graeber a appelé les bullshit jobs ou la bullshit économie dans un.
Voilà. Pour en revenir à votre question sur la participation, la participation a beaucoup d'intérêt. C'est pas non plus la panacée. La participation,
c'est une solution unique, ça c'est tout à fait évident.
Alors, c'est une prise de risque pour le salarié, puisque du coup une partie de sa rémunération dépend des résultats, des profits de l'entreprise. Donc moi j'y vois beaucoup de choses intéressantes, mais on peut pas aller non plus trop loin. On peut pas avoir 20, 30, 40% des salaires qui sont variables en fonction des profits réalisés par l'entreprise.
Mais est-ce que brièvement, est-ce que vous pensez que il peut y avoir des négociations qui peuvent s'ouvrir? Vous qui êtes donc à l'Institut Montaigne, on sait combien les pronostics et les diagnostics de l'Institut Montaigne peuvent être écoutés par certains du patronat français, par exemple. Est-ce que justement, est-ce que des propositions peuvent être écoutées par les patrons aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, ça n'est pas à l'ordre du jour, très brièvement?
Si, c'était à l'ordre du jour avant le Covid, ça le reste, et puis ça le restera. Il y a une réflexion à avoir sur la participation. Dans la note dont vous avez parlé de l'Institut Montaigne, je propose de rémunérer éventuellement du travail supplémentaire pour des entreprises qui sont en difficulté, ne pas les rémunérer immédiatement, mais les rémunérer ultérieurement sous forme de participation, en déformant donc le partage de la valeur ajoutée ultérieurement en faveur des salariés. Mais encore une fois, c'est pas la panacée. Il y a des contreparties. Il est très probable que des entreprises qui vont énormément augmenter leur participation l'utilisent aussi pour comprimer les salaires. Donc il faut pas non plus verser dans l'angélisme de la participation.
Bien sûr. Brièvement, Sylvie Vachou, je suis désolé, on arrive au terme de cette émission. Vous êtes en plus confronté à la CGT à une sorte de loi très dure quand on travaille sur les questions des métiers de caissière. C'est que on vous met dans les mains la possibilité d'automatisation, donc la suppression des postes. Faut-il augmenter les salaires aujourd'hui pour ceux qui sont en place et peut-être risquer qu'il y ait des machines automatiques qui les remplacent, ou au contraire faire en sorte que ça soit différent? C'est une des questions. Très brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est vécu cette question-là?
D'une manière très complexe, effectivement, parce que pour avoir eu 2-3 réunions avec la branche. Et ces derniers temps, effectivement, c'est monté très fort, mais de la part de toutes les organisations syndicales, encore autour de la table, parce que c'était en vidéo, mais la revalorisation du salaire. Et on a cru comprendre, côté patronal, que ça fait, dans la balance, serait les emplois. Ils n'étaient pas fermés, effectivement, à une revalorisation du salaire. Mais nous craignons que ce soit au détriment de l'emploi. Donc, c'est très, très compliqué. Mais nous, après, on a des revendications, on a des propositions. Nous, on estime qu'aujourd'hui, avec justement l'arrivée des nouvelles technologies dans notre branche, pourquoi ne pas descendre le temps de travail à 32 heures hebdomadaires? Ça permettrait peut-être au temps partiel de pouvoir, elles, augmenter leur contrat horaire. Et au temps plein, de descendre le leur, il y aurait une juste répartition.
Ça mériterait une discussion. Je suis pas sûr que Bertrand Martineau soit tout à fait d'accord avec vous. On est obligé de clore malgré tout. Sylvie Vachou, je vous remercie. On peut conseiller votre article, Romaric Gaudin, sur le site de Mediapart, qui est très complet. Et également dire, Bertrand Martineau, que vous êtes auteur d'un prix Turgot. Donc c'est un livre qui s'intitule « Chômage, inverser la courbe » et que vous êtes auteur d'une note qu'on peut lire sur l'Institut Montaigne. « Rebondir face à la Covid-19 ». L'enjeu du temps de travail. C'était le temps du débat. L'équipe du temps du débat, Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bay, Hugo Boursier et Manon Prisset. À la technique aujourd'hui, Alexandre Dang. À la réalisation, Olivier Bétard. Demain, nous parlerons de la folie autour de l'hydroxychloroquine. On essaiera de comprendre pourquoi on s'est devenu un lieu de débat aussi fort en France ces temps-ci. Et puis, je vous conseille la conversation mondiale qui continue sur le site de France Culture aujourd'hui. C'est Achille Mbembe qui nous a fourni un texte. Je vous conseille d'aller voir sur le site de France Culture.